Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκές Ξεροβάνια.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Crise immobilière, crise financière, banque en faillite ou nationalisée de fait. Rien ne va plus aux États-Unis où l'on s'interroge à quel moment l'économie réelle, celle qui produit, sera touchée. Et comment va la crise en Europe? En Grande-Bretagne, le système bancaire est déjà atteint de plein fouet. L'Europe continentale va-t-elle mieux résister? Difficile à prédire. En tout cas, les dirigeants européens font assaut de prudence, comme le dit en toute modestie le commissaire européen aux affaires économiques Joachim Almunia. Nous ignorons combien de temps va durer la crise financière? Quel peut être le rôle de la BCE, la Banque Centrale Européenne? Est-ce le moment pour l'Union Européenne d'imposer aux Américains, ou de tenter de le faire, un système de surveillance et de régulation des marchés? Enfin, faut-il dire adieu à la croissance et craindre le retour d'un chômage de masse? Cela fait beaucoup de questions. Bonjour Pierre-Vange Berès.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé socialiste et vous présidez la commission du Parlement Européen pour les affaires économiques et monétaires. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous de Francfort. Vous êtes eurodéputé allemand. Vous siégez dans le groupe ADLE, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. C'est le groupe qui accueille les eurodéputés français du mouvement démocrate de François Bayrou, par exemple. Jean-Pierre Pata, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas député européen. Vous êtes économiste et conseiller au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, et conseiller également de Thierry Apothécaire, consultant. Jean-Pierre Pata, une question de prospective s'impose pour l'Europe, le pire est-il à venir ou au contraire sommes-nous à l'abri derrière l'euro, protégés par une économie à tantinet moins spéculative que de l'autre côté de l'Atlantique?
Je crois qu'il y a quelque chose qui est objectivement vrai, c'est que la situation financière et bancaire européenne est fondamentalement plus saine que la situation américaine. Ça, je crois quand même qu'on ne peut pas le nier. Et sans doute c'est sur ces prémices que beaucoup de responsables politique ou monétaire, je pense aux dirigeants de la Banque Centrale Européenne, avaient pensé que, certes, l'Europe serait atteinte, bien sûr, par ce qui se passe aux États-Unis, mais qu'elle serait peut-être moins atteinte, et sur le plan financier, et sur le plan économique. Et les très mauvais résultats du deuxième trimestre dans la zone euro ont démenti ces prévisions optimistes et montré que la faculté de contamination par la finance américaine, en particulier par l'éclatement des bulles sur les marchés américains, continuait à être absolument redoutable. Il n'empêche que c'est vrai que les banques, que ce soit les banques françaises, les banques allemandes peut-être un peu moins, mais en fait, dans la zone euro, les banques, bien sûr, ont des expositions sur ces fameux crédits subprimes, ces crédits risqués, ils en ont, mais on voit bien, leurs pertes ont été circonscrites. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu aux États-Unis. Et par ailleurs, il y a une régulation en Europe qui est quand même extrêmement solide. Par conséquent, il y a encore une fois des éléments objectifs pour être à la fois prudent, pas être alarmiste, sans être béat. Voilà.
Pierre-Vange Berès, crise de grande ampleur et grand silence des politiques, qu'ils soient nationaux ou européens. Alors, sont-ils aussi dépassés par une crise qu'ils ont du mal à appréhender?
Moi, je suis contente que vous m'invitiez ce soir, mais je crois que ça fait un certain temps que je m'exprime toujours dans le même sens sur ce sujet, depuis le début de la crise. Moi, je me souviens, j'ai demandé à Jean-Claude Trichet, parce qu'on a l'impression qu'on découvre la crise là. Cette crise, elle est quand même ouvertement déclarée depuis le 11 août de l'année dernière. Donc, ça fait plus d'un an que les prémices de cette crise sont installées. À l'époque, Jean-Claude Trichet refusait de parler de crise et parlait de forte correction des marchés. Je ne faisais pas partie de cela. Et je ne veux pas avoir de lecture rétrospective, mais j'ai écrit à ce moment-là que nous étions dans une crise. Je suis d'accord avec M. Pata sur les fondamentaux de l'économie européenne. Simplement, nous sommes dans la globalisation. Et la globalisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de découplage entre les économies. Nous dépendons de l'économie américaine. Et quelle que soit la meilleure santé de l'économie et du système bancaire européen, il y a des tensions sur les crédits. Le niveau de confiance entre les banques a diminué. C'est pour ça que la Banque centrale a dû, dès le début de la crise, injecter à plusieurs reprises des sommes importantes, ce qu'on appelle une injection de liquidité, même si ce n'est pas tout à fait propre pour exprimer la réalité de ce que ça signifie. Et il y a un couplage dans l'articulation entre les mécanismes financiers et en termes économiques. Les mauvais résultats qu'ont connus la France, l'Allemagne ou l'Italie au trimestre dernier sont liée, bien évidemment, au début de cette crise. Alors, quelles seront les conséquences de la dimension qui est prise aujourd'hui par cette crise? Ça, je n'en sais encore rien. Mais à l'heure de la globalisation, il n'y a pas de découplage.
Wolf Klinz, l'économie allemande est une économie du réel. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un petit coup d'œil sur la balance très excédentaire de la balance commerciale très excédentaire de votre pays. Alors, comment vit-on cette crise outre-Rhin? Avec inquiétude ou justement une relative sérénité tant les fondamentaux de l'économie allemande sont sains?
Je crois qu'on commence quand même à accepter le fait que l'économie réelle est touchée et qu'on peut pas on peut pas croire que la crise sera limitée aux États-Unis ou peut-être au Royaume-Uni et touchera pas l'Allemagne. Déjà, l'économie s'affaiblit. Bien sûr, l'industrie marche relativement bien encore parce qu'il y a encore suffisamment d'ordres dans les bouquins. Seulement, l'entrée des ordres commence à se réduire. Donc, la croissance de l'économie réelle en 2009 sera certainement beaucoup plus faible qu'on n'a pas pensé il y a 6 mois ou 12 mois. Et moi, personnellement, je suis surpris de voir que notre ministre des Finances, Pierre Steinbrück, hier, quand il a présenté son budget, n'a pas voulu en tenir compte.
Alors, il n'est pas le seul. Curieusement, Nicolas Sarkozy ne s'est pas encore exprimé sur la crise financière. Il devrait le faire jeudi prochain. Par contre, François Fillon, le Premier ministre, a donné le ton hier de ce qui pourrait être la ligne politique des Européens. François Fillon.
Aux États-Unis, les acteurs financiers ont une sérieuse responsabilité dans ce qu'il faut bien appeler un dévoiement du capitalisme qui nous touche aujourd'hui tous. Certains se sont laissés totalement emporter par les performances extravagantes de produits financiers complexes et totalement opaques. La maîtrise du risque et le souci de la transparence qui auraient dû imprégner le système bancaire ne doivent plus jamais être perdus de vue. L'Europe attend des autorités américaines qu'elles prennent leurs responsabilités comme l'Europe prendra les siennes. Nous ne pouvons pas accepter de payer les pots cassés d'une régulation défaillante.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Alors François Fillon parle de dévoiement, d'opacité d'un côté, de transparence et de régulation de l'autre. Je vous ai vu sourire, Père Vanche-Bérès.
Bah oui, parce que à ma connaissance, les banques européennes ont aussi acheté des titres, des produits titrisés, c'est-à-dire ces produits complexes dans lesquels finalement celui qui achète le produit ou qui le prend en garde dans ses comptes n'est pas très au courant de ce qu'il achète. Il ne sait pas très bien comment se produit. Au fond, ce qu'on exige maintenant sur le bœuf ou sur
la traçabilité
des produits financiers
n'existe pas.
Est très faible. Et du point de vue européen, c'est vrai, nous n'avons pas le même rapport au crédit, nous avons des régulations qui historiquement sont plus solides que celles qui existent aux États-Unis. Mais vous savez, dans cette activité internationale qui a été largement menée autour des stratégies des grandes banques d'investissement américaines qui se sont servies de Londres souvent comme une place offshore pour obtenir les régulations dont ils avaient besoin, l'Europe n'a pas su jusqu'à ce jour, s'organiser pour s'exprimer, pour dire aux Américains ces produits sont dangereux, que nous n'en voulons pas, ou même d'être capable de dire nous ne voulons pas de ces produits-là, et surtout, nous devons surveiller leur utilisation, nous devons organiser leur traçabilité.
Alors justement, Jean-Pierre Patta, quand on veut renforcer rapidement la surveillance des marchés, comme l'exprimait François Fillon, on s'y prend comment au niveau européen?
Je voudrais revenir très rapidement quand même sur ce qu'a dit le Premier ministre, qui à mon avis est totalement exact, parce que il y a évidemment une responsabilité totale du côté américain, mais il y a une part de responsabilité, ce que le politiquement correct international évite de signaler, c'est la responsabilité, à mon sens, de la politique monétaire américaine. Parce que quand pendant plusieurs années, l'argent ne coûte que 1%, il est clair que cela est le terreau sur lequel toutes les dérives peuvent se développer. Alors après, bien entendu, les établissements ont été très imprudents, ont gonflé. Mais il y a là quand même quelque chose qu'on ne peut pas nier et sur lequel il ne faut pas revenir dans de tels errements. Alors je reviens à votre question pour...
On s'y prend comment?
Écoutez, il y a une régulation et une supervision qui, je parle de la zone euro, hein, qui est actuellement très largement effectuée au niveau national et qui, de l'avis de tout le monde, marche bien. Et je crois que une condition pour que ça marche bien est que ce soit adossé aux banques centrales. Si vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, on a dépouillé la Banque d'Angleterre de son rôle en matière de supervision bancaire, et tout le monde s'accorde à dire que probablement l'affaire Northern Rock n'aurait pas évolué comme cela si la Banque d'Angleterre avait gardé la maîtrise de la supervision bancaire. Donc il y a là une supervision à l'échelon national dont il faut renforcer la coordination. En particulier parce qu'il y a des banques qui ont des agences de partout en Europe et que par conséquent il y a des groupes bancaires qui sont multinationaux dans la zone euro, et là il faut renforcer la coopération. Elle est en cours d'ailleurs de renforcement, mais je ne crois pas à une supervision européenne, en tout cas zone euro, compte tenu du fait qu'encore une fois les supervisions dans la zone euro ne sont pas rattachées toutes aux banques centrales mais certains aux trésors nationaux, et en plus je pense qu'on créerait une usine à gaz qui risquerait d'affaiblir finalement l'efficacité du système.
Alors Wolf Klintz, vous êtes un libéral, mais vous êtes aussi un eurodéputé allemand, et les Allemands ont été très en faveur de mesures pour discipliner la spéculation financière, notamment celle des fonds spéculatifs. Jusqu'alors, les Allemands n'ont d'ailleurs pas été très très entendus par leurs homologues et leurs collègues.
Oui, j'aimerais revenir sur un point qu'a fait Pierre Bansch, que je partage. Ce ne sont pas seulement d'ailleurs les banques européennes qui ont investi dans les produits structurés, mais hélas aussi des communes par exemple. Et je crois on va trouver qu'il y aura une surprise très très négative quand on verra la magnitude d'investissement des communes dans ces produits-là. À mon avis, donc, il y a pas seulement la responsabilité du côté américain, comme vient de dire un de nos interlocuteurs. Je crois la responsabilité est aussi chez nous, parce que la croissance excessive des marchés des dérivés n'est pas limitée aux États-Unis. Le centre du marché des dérivés, c'est Londres. Et la naissance des produits structurés et leur titrisation se fait partout dans le monde. Et l'introduction des modèles mathématiques dans les marchés de capital également, c'est fait pas seulement en Europe mais aussi chez nous. En ce qui concerne maintenant la transparence et la demande d'assurer beaucoup plus transparent, je crois nous nous sommes concentrés au début de la discussion surtout sur deux secteurs. Hélas, ces secteurs ne sont pas les secteurs qui sont à l'origine de la crise. On se concentrait sur les sauterelles, donc, et sur les fonds de hedge funds, et sur les private equity funds. Et maintenant, on doit constater, ce sont surtout les banques d'investissement, donc les investment banks, comme on dit en anglais, qui ont développé ces produits, qui les ont vendus, etc. À mon avis, il faut changer plusieurs choses. Bien sûr, premièrement, renforcer la coopération entre les régulateurs. Ça, c'est clair. Et pas seulement au sein de l'Europe, mais aussi entre l'Europe, l'Amérique, le Japon et le reste de l'Asie. Deuxièmement, il faut accepter le fait qu'il y a des règles de base de l'économie réelle qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut investir, il faut faire des épargnes. Et sur cette base-là, on peut se permettre un niveau de vie peut-être un petit peu élevé. Les Américains ont prétendu que tout le monde, même au début de la carrière professionnelle, peut se permettre une grande voiture, une maison, un niveau de vie en luxe, etc. Ça va pas. Ça va pas. On peut pas prétendre qu'on peut acheter tout ça sans que les règles de base de l'économie réelle soient mises en considération.
Jean-Pierre Patta, d'un côté, on voit bien que dans la finance européenne, il y a deux clans, hein, je symbolise un peu. D'un côté, les continentaux, et de l'autre côté, les anglo-saxons, les britanniques et les irlandais. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la crise est plus forte du côté anglo-saxon, que les banques qui ont fait faillite sont britanniques, elles ne sont pas jusqu'alors continentales. Alors, est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer d'organiser pour les Européens, disons, leurs propres normes? Et comment s'y prend-on? C'est toujours la même chose. Comment cette opposition entre les anglo-saxons d'un côté et les continentaux, comment dépasser cette opposition?
Écoutez, c'est une question de culture. La zone euro, les pays de la zone euro sont des pays qui, dans lesquels les marchés se sont développés, mais où le financement de l'économie fait beaucoup moins appel au marché que dans les pays anglo-saxons. C'est en termes techniques, on dit que l'économie est plus intermédiaire, les banques y jouent un plus grand rôle. Et surtout, il y a un modèle de banque qui est, je crois, quand même relativement protecteur, c'est-à-dire que c'est de la banque universelle. Et la banque universelle fait qu'il n'existe pas, comme aux États-Unis ou en Angleterre, ces énormes entités qui ne font que de la banque d'affaires et qui ne travaillent que sur les marchés et qui, évidemment, dans des circonstances pareilles, payent le prix fort. Donc, personnellement, je dirais que si les choses doivent évoluer, il vaut mieux que ça évolue vers le modèle continental, c'est-à-dire zone euro, plutôt que vers le modèle outre-Atlantique ou même vers une espèce d'harmonisation qui ne signifierait pas grand-chose.
Et Pierre Vangerès, ce qui se passe, est-ce que c'est pas le fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a besoin des gouvernements et des États?
Oui. Normalement, ça devrait être l'heure de la gauche. Moi, je suis très frappée de ça. Au fond, entre le débat autour du modèle anglo-saxon et le modèle continental, qu'est-ce qui s'est joué du côté du modèle anglo-saxon? Pendant longtemps, on nous a expliqué qu'il fallait faire confiance au marché, que l'autorégulation permettait au marché de se corriger seul, c'est ça l'autorégulation. On se rend compte aujourd'hui que dans la réalité humaine, il y a toujours une stratégie du gendarme et du voleur, hein, et que si le gendarme ne s'adapte pas aux nouvelles
techniques
du voleur, on est en panne. Alors il ne s'agit pas de mettre en place une régulation du 19e siècle, mais cette crise c'est ça, hein. C'est qu'on a des agences de notation qui étaient complices de ceux qui fabriquaient des produits pourris. On a des banques qui ont fait confiance aveuglément à ces agences de notation, ouais, sans regarder eux-mêmes, sans faire leur travail d'évaluation de la qualité des produits qu'ils achetaient, et des superviseurs qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient pas adapté leur niveau d'intervention au développement des marchés, parce qu'on gagne plus d'argent que quand on gère un hedge fund ou des produits complexes, que quand on est superviseur.
Alors la France préside en ce moment à l'Union européenne, est-ce que c'est à la France de donner un élan?
Moi, ça fait un an que je pense qu'il y a un moment d'opportunité extraordinaire. Vous savez, dans la construction européenne, chaque pays a un peu son image, hein. Et la France, c'est vrai, est vécu un peu comme le pays du marché. C'est plutôt vécu comme le pays de l'intérêt général, de la supervision, de la régulation. Et avant même la crise, avant août 2007, tout le monde savait très bien que dans la zone euro, on a un problème, on a une monnaie unique, mais comme on attendait les Britanniques, on n'a pas fait la supervision, et depuis, non seulement les Britanniques n'ont pas rejoint l'euro, mais en plus, on a cette crise qui oblige à poser la question de la supervision, et que même maintenant, tout le monde peut comprendre. Donc il y a un rendez-vous historique pour la France, et moi j'attends toujours que celui qui exerce la présidence de l'Union européenne prenne les initiatives nécessaires.
Il nous a promis une intervention jeudi.
Oui, mais on va voir ce qu'il va dire. Moi j'ai un tout petit désaccord avec M. Patin. On a en Europe un système complexe, avec des systèmes de supervision bancaire qui sont différents d'un pays à l'autre. Mais ça ne peut pas être un argument pour ne pas renforcer notre supervision au niveau européen, parce que sinon il y aura toujours un jeu de cache-cache, une stratégie d'offshore entre les États membres, et nous ne serons pas à ce moment-là en situation de pouvoir discuter avec les Américains et de leur dire, nous, en Europe, on pense comme ça. Il y a un dernier risque que je crois qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on est à un moment de crise. Donc dans ce moment de crise, c'est le moment où l'industrie financière se retourne vers les politiques en leur disant, prenez vos responsabilités, agissez. Du côté des politiques, c'est très difficile, parce qu'on voit qu'il y a des stratégies nationales, les transferts de pouvoir qui ne sont pas forcément faciles à orchestrer. Mais c'est le moment où on a besoin de profiter de cette crise pour définir les éléments d'un renforcement européen et ne pas attendre que la pression retombe, parce qu'à ce moment-là, on organise les conditions de la crise prochaine.
Jean-Pierre Patin, juste d'un mot, la croissance en berne, la récession peut-être, le chômage de masse, c'est éventuellement vraiment d'un mot.
La croissance, je sais bien que ce terme en berne est très à la mode. Nous sommes dans une situation économique très difficile. Je pense que la croissance va être très faible, peut-être négative dans les trimestres qui viennent. Et bien entendu, cela va avoir des conséquences sur l'emploi. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les choses seront pas trop longues, car il y a un espoir avec la baisse du prix du pétrole et la remontée du dollar.
Perdant, Cheberès, Wolf Klins, Jean-Pierre Patin, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Jean-Marc Muni et Claude Battista qui ont réalisé cette émission. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site RFI.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver en tapant au Carrefour de l'Europe sur n'importe quel moteur de recherche. À la semaine prochaine.